chers amis, Georges Kuzmanovic s'en va, Olivier Vial le remplace. Alors, on ne va pas parler de la même chose, mais j'avais laissé échapper tout à l'heure un mot décisif, plus décisif en tout cas que tout ce que j'ai l'habitude de dire. Je parlais de médias indépendants. Eh bien, évidemment, Radio Courtoisie fait partie de ces médias indépendants. Vous êtes 1 million à nous écouter chaque semaine dans les ondes hertziennes. Je ne parle même pas des audiences numériques. Vous êtes 17 000 à nous donner des sous. Voilà, 1 million, 17 000. Bah, y a un petit effort à faire. Voilà, si vous pouvez nous donner 1 ou 2 euros. S'il est 983 000 personnes qui nous écoutent et qui ne donnent pas, ont la gentillesse de nous donner un petit euro. Bah, voilà, le mois de mars sera plus facile, le mois d'avril aussi, et sans doute même ça va nous mener facilement jusqu'en juillet. Merci de nous donner. Vous pouvez nous donner justement sur soutenir.rc.fr. Vous pouvez aussi envoyer des chèques au 61 Boulevard Murat. Vous pouvez être munificent, mais une fois plus, je ne vous réclame aujourd'hui qu'un seul euro. Merci beaucoup. Olivier Vial, pardon de vous accueillir avec ce discours commercial, mais en même temps, vous êtes venu pour nous parler de votre livre « La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ?» qui est un bouquin qui est un peu étonnant parce qu'on vous connaît, vous êtes directeur du CERU, chargé du programme Radicalité, vous êtes sur CNews, vous nous parlez plutôt d'actualité politique et sociologique. Et là, ce bouquin est absolument remarquable, mais c'est sur un sujet totalement différent. Vous nous parlez de crableux, vous nous parlez de fourmis ardentes, vous nous parlez d'écrevisses rouges, vous nous parlez évidemment de frelons asiatiques. D'ailleurs, on ne doit pas dire frelons asiatiques parce que ça stigmatise.
Voilà, c'est effectivement une des choses qu'on révèle dans le livre, c'est qu'effectivement, plutôt que de s'attaquer à la régulation de ces espèces, certains s'emploient justement par idéologie à essayer de couper les cheveux en quatre et notamment à mener une guerre lexicale. Mais effectivement, quand on a eu l'idée de ce livre, c'est un livre que j'ai coécrit. Et effectivement, c'est très important d'avoir ces deux visions-là. C'est d'ailleurs pas une idée qui nous est venue tout seul. C'est une amie qui nous connaissait, hein, qui connaissait mon co-auteur, qui me connaissait.
Donc le docteur Romain Lasseur.
Voilà, et qui a eu cette idée de se dire, essayons d'avoir deux regards différents sur ce phénomène-là. Le regard du scientifique, du biologiste, donc le docteur Romain Lasseur, qui est docteur en toxicologie animale, qui est un vétérinaire et qui est surtout un spécialiste européen de toutes les espèces invasives. Et puis moi, effectivement, qui ai plutôt l'habitude de travailler sur les radicalités, les nouvelles idéologies. Et en fait, on s'est aperçu que ce double regard était extrêmement fécond parce que, et c'est un peu ce qu'on essaie de révéler dans ce livre qui est un petit peu un cri d'alarme, c'est qu'en fait, quand on s'intéresse à cette question des espèces invasives, quand on regarde ce qui a déjà été écrit, soit par des scientifiques, soit par des instances internationales, on s'aperçoit que tout le monde tire la sonnette d'alarme déjà depuis des années, mais que bizarrement, personne ne l'a entendu dans les pouvoirs publics ou met très très longtemps à l'entendre. Et ça, effectivement, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ce déni. Et ce déni, il est essentiellement idéologique. C'est ce qu'on essaie de montrer dans ce livre. Donc, c'est un livre qui, à la fois, va vous permettre de mieux comprendre quelles sont les menaces sanitaire, économique. Économique, on n'est qu'au début du chiffrage. On s'aperçoit que le chiffrage qu'on a actuellement, il est très parcellaire et pourtant, c'est déjà 1208 milliards depuis les années 70 qui sont consacrés aux dégâts de ces espèces.
Alors, dans 1208 milliards dans le monde
entier. Dans le monde entier. Sauf que les experts nous disent qu'en réalité, ce chiffre, il est plus que parcellaire, puisque pour l'instant, il est calculé sur quelques zones géographiques. Par exemple, l'Amérique latine n'est pas du tout... on n'a aucun chiffre sur l'Amérique latine, donc on ne l'a pas calculé. Il est calculé que sur une centaine d'espèces, alors qu'il y en a 2700. Et il est calculé que sur quelques coûts qu'on a mesurés, sans être en capacité de mesurer les cascades, les coûts en cascade. Certains experts estiment que ce chiffre, il est extrêmement sous-estimé, en pensant qu'il est sans doute 500 fois supérieur, voire encore plus. Et donc, on a un coût économique extrêmement important, je pense qu'on y reviendra. Et puis surtout, on a un coût de biodiversité qui est extrêmement fort. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus original. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que les nouveaux écologistes, ceux qui se sont emparés du discours écologiste ces dernières années, en fait, pour des bons sentiments affichés, sont en train de sacrifier notre environnement et notre biodiversité.
Et notamment, voilà, il y a une idée que ces nouveaux écologistes ne supportent pas, c'est l'idée que ce soit la nature qui soit coupable. Parce que, donc, il y a un vrai danger contre la biodiversité, mais c'est justement parce que ces espèces invasives sont introduites par hasard ou introduites à dessein, sont en train de ravager. Vous citez notamment le cas des escargots à La Réunion, si je ne m'abuse.
Non, alors c'est en Polynésie.
En Polynésie, pardon. Et donc en Polynésie, quelqu'un adore les gros escargots et donc il fait venir une espèce d'escargot gigantesque qui fait l'escargot d'Afrique. Ça m'a évidemment rappelé Delinda Carthago, puisque donc au moment des guerres contre Carthage, il y a un épisode fameux où c'est en cherchant des escargots qu'un soldat romain trouve un passage pour aller attaquer les Carthaginois. Et donc le type, sans doute inspiré comme moi par la lecture des classiques latins, donc introduit
plus prosaïquement, en fait, c'était pour l'alimentation. Parce que c'est des escargots énormes.
C'est ça. Et donc, effectivement, ça pèse un kilo. Donc,
voilà, pour l'alimentation, ils ont pensé que c'était extrêmement utile de faire entrer cette espèce qui est tellement grosse qu'elle n'a pas de prédateurs et donc est devenue rapidement invasive.
Alors, ils ont eu une super idée. Ils ont, introduit un deuxième escargot plus petit et féroce en se disant, malgré tout, ce gros escargot n'a qu'un seul prédateur, c'est l'escargot plus petit et méchant, un escargot rose, si je ne m'abuse.
C'est l'escargot rose, oui.
Voilà. Et donc, on va lui mettre l'escargot rose dans les pattes, si j'ose dire. Il s'agit d'un gastéropode. Et donc, on lâche l'escargot rose. Et l'escargot rose se dit, j'ai le choix. Soit je me fais suer à suivre les gros escargots, soit en fait, il y a là 60 espèces d'escargots indigènes qui sont plus petits, sans défense, plus lents. Et ben, je vais plutôt à la place bouffer tous les petits escargots indigènes.
Effectivement. Et on a du coup totalement perdu. Il y a une soixantaine effectivement d'espèces qui étaient autochtones en Polynésie, qui n'existaient qu'en Polynésie, qui ont disparu.
Vous citez le chiffre, il y a 92% des escargots polynésiens qui ont disparu.
Parce qu'effectivement, pour deux raisons. Alors, il y a eu cette introduction, et puis il y a eu ce qui est intéressant dans l'introduction de l'escargot rose, c'est que plutôt qu'effectivement de se dire, là encore, qu'il faudrait qu'on mette en place des mesures, y compris peut-être avec des biocides, etc., on se dit, bon, on va rajouter un prédateur et on va tout changer. En faisant ça, en fait, très souvent, on se trompe et on surajoute des problèmes. Et effectivement, vous avez raison de dire que la philosophie qui est derrière ça, c'est une philosophie qui est en réalité extrêmement anti-humaniste. C'est considérer que l'homme et surtout l'homme occidental, hein, parce que on retrouve ça dans toutes les idéologies, que l'homme occidental serait responsable de tout et que le meilleur moyen de résoudre les problèmes de l'environnement notamment, c'est de le retirer des écosystèmes, de le retirer de l'équation et d'espérer...
De
retirer l'homme de l'équation et d'espérer que la nature bonne par elle-même, dans une forme de libre évolution, reviendra à un équilibre parfait. Et bien, ce qu'on montre dans ce livre, parce que cette thèse-là, elle est extrêmement populaire aujourd'hui. Il y a des associations qui, l'ASPAS, on la cite, qui achètent des hectares entiers, y compris en France, pour les réensauvager, c'est-à-dire enlever toute trace de l'homme, que ce soit les dispositifs anti-crues, les dispositifs anti-incendie, tout ce qu'on pourrait faire pour débroussailler, etc., au nom justement de permettre cette libre évolution. Et bien, ce que montre la question des espèces invasives, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, quelquefois, la nature peut se retourner contre elle-même et peut être extrêmement invasive et du coup nuire au reste de la biodiversité. Et la thèse du livre, en fait, la thèse du livre, après on pourra parler parce que des moyens, mais la thèse du livre, c'est que même si l'homme est quelquefois responsable des troubles de l'environnement, il est toujours la solution. Il n'y a pas d'autre solution si on veut être en capacité de répondre à ces réels problèmes, parce que c'est des problèmes sanitaires très importants. L'ANSES, par exemple, rien que sur les arborovirus, donc le chikungunya, le Zika, etc., estime que dans les 5 ans, le risque d'épidémie, il est de 6 sur une échelle de 7. Donc autant dire que on est très au-dessus des risques qui avaient été imaginés pour les coronavirus, etc. On sait déjà, par exemple, sur le chikungunya, 2024, il y a 34 cas en France, 2025, il y en a 1585. Et on sait que ça monte de façon exponentielle. Donc on aura ces problèmes-là.
Et le chikungunya, comme vous le signalez dans votre livre, en plus, c'est avec des moustiques qui ne piquent pas aux heures où les autres moustiques nous piquent.
C'est le fameux moustique tigre qui, effectivement, se développe de façon extrêmement massive aujourd'hui, puisqu'il était jusque dans le sud de la France, il commence maintenant à remonter un peu partout. Il est effectivement très souvent maintenant porteur de cette maladie. Il est porteur de trois maladies, mais notamment le chikungunya, qui sont des maladies qui sont extrêmement douloureuses en plus. Tous ceux qui ont qui ont contracté cette maladie, il y a une dame par exemple qui dit qu'elle préfère vivre 10 accouchements qu'encore vivre une semaine de chikungunya. Quoi.
Chikungunya, vous le dites, c'est la maladie de l'homme courbé, donc courbé par la douleur en fait. C'est la traduction de chikungunya.
Et c'est effectivement une des maladies. Il y en a plein d'autres aujourd'hui. On voit par exemple une explosion de la maladie de Lyme qui est liée au tic. On a plus de 50 000 cas aujourd'hui en France et sans doute beaucoup plus parce que c'est une maladie qui en plus a pendant été très longtemps très sous-diagnostiquée. Et ça, c'est lié à l'explosion du nombre de tics.
Alors, mais je voudrais justement revenir là-dessus parce que je trouvais que c'était une parfaite transition par rapport à ce qu'on disait sur les écologistes. Je vous cite, ces militants ont du mal à aborder la question des espèces invasives. Pour eux, difficile d'admettre que la nature peut se retourner contre elle-même et qu'elle n'a pas toujours besoin d'intervention humaine pour cela. Les invasions biologiques ne s'intègrent pas à leur grille de lecture qui idéalise la nature et diabolise l'homme, oppose une nature intrinsèquement bonne et le capitalisme forcément destructeur. Et par exemple, les écologistes disent il faut arrêter les brûlis, il faut arrêter l'éco-buage, n'entretenons pas les forêts, quand les arbres tombent, laissons-les sur place. Et en fait, ils sont en train de multiplier les conditions pour que les tiques puissent prospérer. Et comme il ne faut pas chasser, y a de plus en plus de chevreuils, de plus en plus de sangliers qui sont des réserves à tiques. Et donc, on fait en sorte que les tiques se multiplient avec un écosystème parfaitement adapté à leur multiplication, parce qu'on n'entretient pas les forêts, alors qu'on pourrait continuer à laisser pousser les arbres, mais il faut en plus faire en sorte qu'il y ait des tas de détritus qui sont exactement l'endroit où elles peuvent vivre. Il faut en faire en sorte de ne pas tuer les bêtes, donc du coup les bêtes se multiplient par milliers et vont maintenant jusque dans les zones périurbaines. elles rentrent dans les jardins bien taillés et elles se contentent pas de vivre en forêt, et ce qui fait qu'avant on pouvait se balader en forêt et choper une tique, maintenant il suffit de s'installer sous un parasol à côté de son nain de jardin pour là aussi risquer d'en attraper une.
Mais effectivement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit que justement il y a eu beaucoup d'incompréhension justement au nom de cette volonté de retrouver à une nature neutre, en tout cas sauvage. On a effectivement évité d'entretenir la forêt. Alors ça a des conséquences sur les incendies qui sont directs, mais ça a eu aussi des conséquences notamment sur effectivement les tiques qu'on puisse se développer. Mais il y a aussi puisqu'on est à quelques jours des municipales, on révèle aussi par exemple que toute la politique de végétalisation des villes, il faut mieux la penser. Parce que l'ANSES, par exemple, nous dit effectivement que le risque de cette végétalisation, si elle est mal comprise, mal contrôlée, c'est que ça peut être un facteur énorme, notamment pour le moustique, et pour faire en sorte qu'effectivement il y ait des épidémies dans les villes. Et là, si en gros les centres-villes sont atteints par une épidémie de chikungunya, vu le mode de diffusion avec les moustiques qui en gros sont capables de piquer autour d'eux dans un rayon de 300 mètres, ça peut aller très très vite. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qu'on doit avoir en tête et qui malheureusement ont été totalement niées par les écologistes au nom justement de ce mythe de il faut revenir à une forme de nature qui serait pure, qui serait libérée de l'homme. On s'aperçoit qu'en réalité c'est un fantasme et que ce fantasme-là, il est à la fois dangereux pour notre économie, mais il est surtout dangereux aussi pour l'environnement. C'est ce qui est le plus surprenant. C'est que ce qu'on donne comme exemple, qui est, je pense, le plus frappant, parce que ça montre aussi comment l'administration française, avec ses règles, l'administration européenne aussi, est extrêmement longue à gérer les problèmes, c'est l'examen du frelon asiatique.
J'étais page 49. Voilà. Vous me pardonnerez de vous citer, mais allez-y. Je voudrais vous donner la preuve que je vous ai lu, en fait. parce que c'est pas toujours évident. Dans la pratique, le calendrier s'enlise. Le frelon asiatique a survolé la France dès 2004. Il n'a rejoint la liste européenne, donc des espèces invasives, qu'en 2016. La liste française qu'en 2018. Il aura fallu attendre le 14 mars 2025 pour qu'une loi visant à créer un plan national de lutte contre le frelon à pattes jaunes, dit frelon asiatique, donc au passage, ne stigmatisons pas les Asiates, voit enfin le jour. 21 ans.
Voilà, 21 ans, et même les décrets d'application ont été mis en décembre, et là, depuis quelques semaines, on commence à avoir le début de l'application, mais département par département et de façon extrêmement timide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour bien comprendre, le frelon asiatique, c'est extrêmement intéressant. Le frelon asiatique, en 2004, on a une seule femelle qui arrive dans le Lot-et-Garonne au moment où en fait un horticulteur achète des pots en Chine. Il y a une femelle. Il la détecte très rapidement, et très rapidement, on s'aperçoit que c'est une nouvelle espèce. On l'a surveillée pendant quelques années. Pendant quelques années, elle n'est pas invasive, elle se développe, il y a quelques nids. Et là, on la voit arriver et on ne fait rien. Et on commence à s'interroger, donc il va y avoir certaines interrogations. On va mettre quelques années à imaginer effectivement les premiers plans. On va même effectivement perdre du temps à s'inquiéter. Il y a certains chercheurs qui vont justement se poser la question de savoir si vraiment c'est pas discriminant de l'appeler frelon asiatique et qu'on ne va pas plutôt l'appeler frelon à pattes jaunes pour éviter justement une connotation raciste. Donc on voit qu'effectivement au moment où l'invasion commençait à se développer, on est en train de discuter du sexe des anges. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a au minimum 500 000 nids en France, entre 500 000 et 1 million. Le chiffre est effectivement très vaste, mais on a, on va dire, au minimum 500 000 nids. Un nid, c'est 13 000 frelons. Donc, il y a plusieurs milliards de frelons sur notre territoire. Ils sont tous issus de la même mère, de celle qui est arrivée toute seule en 2004. Il aurait suffi à ce moment-là de l'éradiquer de façon extrêmement simple. Quand on nous dit que ça coûte très cher, si on prend les choses au début, là, un coup d'insecticide ou même un coup de tapette, et on n'avait pas des milliards de frelons qui aujourd'hui causent des dégâts considérables. Il y a une abeille sur trois qui est en train de disparaître à cause du frelon asiatique. Et ce n'est que le début. Donc, quand on sait le poids des abeilles dans la pollinisation, ce que ça met sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur tout ça, on se rend compte qu'effectivement, on a mis 21 ans à légiférer et à trouver des solutions, alors qu'aujourd'hui, justement, les spécialistes nous disent « c'est trop tard ». Maintenant, il est tellement implanté en France qu'on aura beaucoup de mal à réduire cette population-là. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est que ça ne nous a même pas servi. Puisque depuis, et là je voyais encore un article qui est sorti cette semaine, dans le Vaucluse, on a un nouveau frelon qui est arrivé depuis 2021, qui est le frelon oriental. Et on est exactement dans la même chose, c'est qu'il n'est toujours pas classé, on est toujours en train de savoir qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, alors que le frelon oriental, on sait qu'il a le même comportement prédateur vis-à-vis de nos abeilles, et donc on risque d'avoir une deuxième invasion d'un autre frelon encore.
Mais
il faut attendre, il faut réfléchir, il faut se poser la question de savoir comment on l'appelle, il faut essayer de trouver effectivement, est-ce que les piégeages qu'on fait ne seraient pas trop cruels pour ces espèces, etc. Et pendant qu'on réfléchit à ça, on laisse effectivement se développer des menaces qui sont extrêmement importantes pour notre santé et notre économie.
Je rebondis sur le frelon oriental. Moi, j'ai découvert son existence en 2024 en Italie. Je vivais à Rome à ce moment-là. Ouais. 2024, souvenez-vous, c'est au moment de l'été, on a la grève des éboueurs un peu partout en Europe et notamment dans des grandes capitales. Je vous laisse imaginer à Rome l'empilement des poubelles et des déchets avec les chaleurs qui étaient beaucoup plus fortes qu'à Paris notamment, même si la gestion de la ville était un peu mieux que pour Paris. Et donc j'ai découvert le Vespa orientalis, c'est comme ça que les Italiens l'appellent. Vespa, parce que ça fait le même bruit en fait que la petite Vespa.
Non, mais c'est surtout c'est le nom des frelons en latin.
Voilà. Vespa, ça veut dire guêpe en fait.
Et exactement, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Vespa en Italie. Bref, ça s'est énormément développé en Italie à cause des déchets, justement de la mauvaise gestion des déchets et de la très forte chaleur. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est justement. Et donc je vais rebondir sur le point initial que vous aviez évoqué, c'était sa gestion du champ lexical. Comment on appelle ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on le garde? Et c'est pas sans rappeler ce que nous avions connu à Paris, quand certains avaient le malheur de dire qu'à Paris, nous sommes envahis par les rats, mais qu'il ne faut pas appeler ça un rat, mais un surmulot. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment toute cette idéologie peut être prise au sérieux sur « non, ce n'est pas un rat », alors que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un rat, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais qu'on va appeler ça un surmulot. D'ailleurs, c'est presque mignon, un surmulot, on a envie de l'apprécier. Mais comment cette idéologie lexicale peut-elle prendre autant d'ampleur face aux dangers sanitaire, alimentaire et économique et écologique
centre,
de tout ce
qui
s'ensuit.
Elle est au centre, effectivement, et c'est ce qu'on essaie de montrer, parce qu'elle est au centre de toutes les nouvelles idéologies aujourd'hui, que ce soit les luttes intersectionnelles, etc. Il y a toujours l'idée que le mot crée la réalité. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de changer les mots si on veut faire accepter la réalité. Et donc, c'est vrai, effectivement, des rats qui sont devenus des surmulots avec, on le cite dans le livre, hein, la mairie de Paris a changé totalement son fusil d'épaule et est passé de lutte pour la régulation des rats à des politiques de lutte contre les stéréotypes de façon à nous apprendre à aimer nos voisins non humains que sont les surmulots et à apprendre à vivre et à cohabiter avec.
Anne-Souris, sénatrice EELV et adjointe à la santé d'Anne Hidalgo, annonce officiellement la création, je vous cite, qui la cite, d'une commission sur la cohabitation avec les rats.
Depuis, ils ont même, il y a eu des travaux de recherche, un projet qui s'appelait Armageddon. Quand on a ce nom-là, on se dit, waouh, ça y est, ils ont enfin pris en compte la réalité du problème. En réalité, non, c'est le projet Armageddon. Il n'avait pas pour but de réguler les rats, mais de lutter contre les stéréotypes négatifs contre les rats. Et donc, ça a été tout un travail qui a été fait. Il y a eu quand même 380 000 euros de crédit de recherche financé par l'Agence nationale de recherche sur cette question-là. Et malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qu'on a retrouvé. Ça a commencé à Paris, mais toutes les villes écologistes et un peu au-delà se sont emparées de ça. Et puis, on est passé du rat à la même question sur les pigeons. Et puis, petit à petit, il y a eu la question générale, puisque aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'on lutte contre des nuisibles. Mais on a la volonté de traduire ça avec notamment la question de le mot qu'on a inventé, qu'on a repris dans des thèses très militantes. On appelle ça des animaux liminaires. Le mot liminaire, c'est quelque chose, et on le retrouve aujourd'hui.
Aux marges.
En fait, le liminaire vient...
À la frontière, ouais, en fait, c'est les limes.
Il vient d'un livre qui s'appelle Zoopolis, qui va décider de créer...
On en parlera à la fin.
Qu'effectivement, on y reviendra, mais ce livre-là est majeur, et il a bouleversé, et c'est là où on voit que les idées sont très fortes, c'est qu'en quelques années, il a totalement changé le regard militant sur ces questions-là.
D'ailleurs, on ne dit plus espèce nuisible, mais espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
Voilà, notamment les ézodes, et là, par exemple, il y a une attaque depuis quelques jours sur les ézodes, fait par notamment le Muséum d'Histoire Naturelle, qui nous dit qu'il ne faut pas réguler en les tuant, puisque ça ne serait pas efficace, cette étude-là.
C'est inefficace et injustifiable économiquement. Alors, c'est une grande étude dont le monde a rendu compte.
Mais effectivement,
avec
on voit justement que là encore, on est dans une approche extrêmement militante, puisque ils font volontairement... Ils excluent leur étude les espèces les plus dangereuses et les plus invasives, comme le ragondin, par exemple, qui n'est pas dans l'étude, alors qu'on montre à quel point il est dangereux à la fois pour la santé, parce qu'il est encore plus que le rat porteur de la leptospirose, qu'il commet des dégâts énormes sur les berges, sur l'agriculture, etc. Bizarrement, effectivement, l'étude du muséum l'exclut pour montrer qu'effectivement, ça n'est pas efficace. Et puis, on voit aussi qu'ils ont surévalué de façon exagérer le coût des espèces en faisant comme si les chasseurs, par exemple, étaient payés 45 euros de l'heure pour chasser, alors qu'ils sont dans leur très très grande majorité bénévoles. Donc il y a une forme d'artificialisation dans la manière de calcul.
Et on a l'impression qu'ils sont en train de parler des meurtres d'extrême droite
politique. Et de l'autre côté, effectivement, on n'a pas du tout un calcul très complet sur les dégâts. Donc cette étude-là, elle est intéressante parce qu'elle va tout à fait dans le sens de notre livre, où on voit comment certains chercheurs, et d'ailleurs on soulignait déjà le rôle du Muséum d'Histoire Naturelle dans le livre, qui, à la différence des spécialistes des espèces invasives, à une vision un peu plus idyllique du sujet, comment effectivement on arrive grâce à ça et comment cette étude-là, qui normalement n'aurait pas dû sortir du muséum, elle est en quelques heures reprise par toute la presse, parce qu'il y a une vraie idéologie, il y a une volonté de croire effectivement
qu'on peut s'entendre avec les animaux
et
nuisibles,
que surtout voilà,
plus nuisibles.
Il faut que l'homme apprenne à vivre avec.
Voilà. Alors vivre avec, donc Dushka Markovic présente les rats, pardon, les surmulots, comme les auxiliaires indispensables des éboueurs parisiens.
Voilà.
Sans les rongeurs qui se nourrissent de nos déchets, les agents de la ville de Paris auraient trop de travail.
Débordé.
Et donc ça, ça a vraiment été dit. Et, c'est absolument fascinant. Et Sandra Kriff,
ça se retrouve de plus en plus. En
voilà. Sandra Kriff, adjointe à la condition animale de la mairie de Grenoble, coprésidente du parti animaliste, se félicite du fait que dans sa ville, les méthodes létales ont laissé place à une cohabitation respectueuse. Les rats, comme les autres animaux, jouent un rôle et participent d'une certaine façon à la propreté de nos rues en mangeant les déchets. Alors, nous devons apprendre à cohabiter. Et ils nous font cohabiter avec des espèces qui sont absolument terrifiantes, parce que les ragondins, ok, ça a une sale tête, mais là, vous parlez des écriveuses rouges, bon, qui sont américaines.
Hein, écriveuses louisianes, ouais.
On aurait pu croire qu'elles débarquaient de Vladivostok, pas du tout, ou de... conditions... La cousine américaine, en fait, ça ne la dérange pas que l'eau soit trouble. Et même, elle contribue, en fait, à créer le trouble de cette eau, puisque, en creusant leur myriade de terriers, elle provoque l'effondrement des berges, soulève les sédiments, rend les eaux plus troubles. La lumière décline, les plantes submergées étouffent petit à petit, et tout l'écosystème avec elle. Loin de se contenter de monopoliser, de dégrader ainsi les abris, et de livrer une féroce concurrence pour l'accès à la nourriture, la Louisiane omnivore et un brin cannibale n'hésite pas, lorsqu'un juvénile ou un individu fraîchement mué se présente, à le dévorer. Donc, c'est.
Non, mais la nature est pas aussi gentille.
On avait des écrevisses super sympas. On faisait un buisson d'écrevisses une fois par an en allant pêcher dans les rivières claires comme de l'eau du robinet. Et là, maintenant, c'est des rivières bourbeuses qui charrient des écrivosses rouges cannibales acharnées à détruire les berges. Et ces espèces, on est en train de nous dire ouais, bien sûr, c'est une espèce, il faut faire attention, voyons voir, on n'est pas certain.
C'est même surtout, ça, c'est intéressant parce que.
En plus, c'est mauvais.
Dans le discours, des animalistes, il y a cette idée qu'on ne parle plus d'espèces, on parle d'individus. Et donc, il n'y a aucune raison de défendre une écrevisse à pattes blanches, qui est l'écrevisse autochtone française, depuis toujours, européenne, par rapport à l'écrevisse de Louisiane. Ces deux individus, ils ont les mêmes droits. Et donc, on n'a pas à sauver une espèce qui est menacée par rapport à une autre. C'est un renversement total de ce que les gens imaginent de ce qu'était l'écologie. Il y a un livre qu'on cite, parce que je trouve que rien que le titre est extrêmement intéressant, c'est « Faut-il sauver l'ours blanc ?» Parce qu'effectivement, pour les animalistes, il n'y a pas de raison. L'ours blanc est un individu au même titre qu'effectivement qu'une guêpe ou qu'un frelon asiatique.
Et donc
c'est pas parce que il est d'une espèce qui est menacée de disparition qu'on doit lui attribuer plus d'attention qu'à un autre individu animal. Et donc dans cette volonté de tout mettre sur le même niveau, et d'ailleurs de mettre sur le même niveau aussi l'homme, hein, puisque c'est le prototype même des thèses antispécistes, il y a une forme de négation. De justement quel est le rôle de régulation des espèces, de la nécessité de protéger pour garder une biodiversité qui soit riche. Et donc petit à petit, et c'est vraiment ce qu'on essaie de montrer, c'est que tous ceux qui nous donnent des leçons de morale, en fait, ils ont beau avoir des bons sentiments, ils sont en train de nous préparer un monde où en réalité il y aura moins d'espèces, il y aura des espèces qui seront, c'est une vraie loi de la jungle, où les espèces les plus invasives seront en capacité de prendre le contrôle et surtout de faire diminuer la biodiversité. L'exemple, peut-être, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais l'exemple qui pour moi est assez majeur, c'est un exemple qu'on connaît un peu moins en France, pourtant il est très important, c'est celui des fourmis, et notamment la fourmi d'Argentine. La fourmi d'Argentine, elle est en train de coloniser tout le sud de la France. La fourmi d'Argentine, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule fourmilière en France. Le problème, c'est qu'elle fait 6000 km de long. Et qu'elle part de l'Italie jusqu'à l'Espagne, qu'elle colonise tout le sud de la France, que c'est une sorte de vaisseau impérial de la fourmi d'Argentine, et que face à ça, aucune fourmi autochtone ne peut résister, parce que c'est vraiment une capacité énorme, mais c'est aussi les petits coléoptères. Elle est en train petit à petit de rendre de façon extrêmement systémique les écosystèmes dans lesquels elle est. Elle devient la seule à pouvoir y vivre avec quelques pucerons qu'elle élève pour le miel là. Et donc ça cause des problèmes pour l'agriculture, ça cause des problèmes pour les oiseaux qui ont de moins en moins à manger, hormis cette fourmi là, puisque elles détruisent tout le reste de l'écosystème. Et donc petit à petit l'écosystème se détruit. Et là encore, la question, c'est pourquoi on ne fait rien ? On a le même exemple que le frelon oriental. On sait qu'on a la fourmi de feu qui est en train d'arriver en Europe. Elle est déjà en Sicile, et on est quasiment sûr qu'elle est en France, même si on n'a pas encore réussi vraiment la documentation, mais elle va arriver. La fourmi de feu, elle est responsable aux États-Unis de 100 000 hospitalisations par an. Elle cause des dégâts qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Et on sait qu'elle va arriver et qu'on ne prépare rien. Alors que cette fourmi-là, elle a des piqûres qui sont extrêmement douloureuses. Ce qu'on sait, c'est que quand elle arrive dans une forêt, par exemple, on dit le prototype, même le symptôme que la fourmi de feu est arrivée, c'est qu'on n'entend plus de bruit. Parce qu'en fait, elle a tué tout le reste. Et donc, c'est juste la vie des fourmis. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de petits rongeurs. Parce qu'en fait, petit à petit, elle a détruit tout l'écosystème. Donc, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus rien. Et petit à petit, ils disparaissent. Et donc ça a un impact énorme sur la biodiversité. C'est un impact aussi en Italie, on le dit, sur l'agriculture. Les agriculteurs arrêtent tellement ils ont mal parce qu'ils sont attaqués par les fourmis qui sont extrêmement agressives. Donc, il y a des endroits où on ne peut plus cultivées à cause des fourmis. Et on est incapable de les réguler une fois qu'elles sont en mode invasif.
Alors, ces fourmis, voilà, mais ces fourmis, il y a des dizaines d'espèces dont vous parlez, évidemment, avec, qui sont capables de nous pourrir la vie. Non seulement les forêts sont silencieuses, les champs sont dévastés, les maisons sont envahies, les prises électriques deviennent truffées de fourmis agressives. Donc, les gens sont obligés de fuir leur demeure.
On ne le sait pas assez, mais par exemple, les compteurs Linky sont souvent sabotés, économisés par les fourmis. Effectivement par des fourmis et donc en fait on se trouve qu'on a des coupures de courant de plus en plus nombreuses qui sont liées aux fourmis.
À cause des fourmis.
Alors c'est le temps, il nous reste une petite dizaine de minutes, c'est le moment de parler de Zoopolis qui en fait imagine qu'il faut maintenant avoir un rapport complètement changé avec les animaux. Et il y a trois catégories d'animaux. Les animaux domestiques, les animaux sauvages, et ce que vous avez appelé tout à l'heure à juste titre les animaux liminaires, autrement dit ceux qui sont au bord. Les animaux domestiques, ce sont des citoyens à part entière. Je vous cite, ils formeraient désormais avec nous des communautés d'interdépendance tellement imbriquées que nous devrions considérer notre société comme mixte, les animaux domestiques devenant co-citoyens avec des droits positifs, droits d'accès aux soins, garantie de leur sécurité. Bon, on imagine surtout en France, à quoi droit à l'épanouissement. Il va y avoir sans doute des assistances sexuelles pour les chiens célibataires. Enfin bon, on est en train de basculer dans le délire auquel on peut imaginer. Et il y a donc les animaux liminaires qui sont des animaux qui vivent dans le voisinage de l'homme sans être domestiqués. Et ce sont comme des étrangers qui viennent s'établir sur notre sol. Nous devons donc leur accorder un statut de migrant. Alors, je voudrais éviter de faire des animaux liminaires une parabole et de votre livre « La guerre contre les espèces invasives », une espèce de brûlot métapolitique. Mais on va revenir sur ces animaux liminaires à la fin. Il y a les espèces sauvages qui sont considérées comme des nations souveraines. Et alors, ça, c'était vraiment absolument épatant parce que les relations que nous serions amenés à nouer avec elles relèvent du droit international. Nous devons veiller à garantir leur souveraineté, ne pas empiéter sur leur territoire. Il n'y a pas d'ingérence, pas d'interférence, sauf si, par exemple, la nation lion commet le génocide de la nation gazelle. Et donc là, on peut espérer intervenir. Je me souviens d'un écologiste, il y a quelques années, qui expliquait qu'il fallait progressivement, évidemment, ne bouffer que de l'herbe, et qu'il espérait qu'on serait capable, un jour, de rééduquer les animaux carnivores pour qu'eux-mêmes deviennent herbivores. Ben, bonne chance. Et même, on espérait qu'il allait commencer tout de suite à rééduquer les lions dans la savane, en espérant qu'il allait être le martyr de sa cause. Mais c'est absolument fascinant la manière dont il s'agit d'éliminer l'homme, en fait, permanence.
Oui, mais effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, effectivement, on pourrait penser que c'est un livre rédigé par deux Uluberlus. En fait, c'est deux universitaires extrêmement importants aux États-Unis et au Canada. Et leur livre, quand il est traduit en français, immédiatement, il va être la base de la création d'une association qui s'appelle Paris Animal Zoopolis, qui va avoir un rôle extrêmement important dans toute la politique animaliste en France, et notamment avec son lien avec les élus municipaux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, on est passé de la question du bien-être animal, qui est quelque chose d'extrêmement aujourd'hui consensuel chez les Français. 96% des Français sont pour justement qu'on ait une meilleure approche, plus douce avec les animaux, etc. Et, Et je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. Sauf qu'on est passé de cette question du bien-être animal à la question de la libération animale. Mmh. Et petit à petit, on est allé de cette libération-là à justement Zoopolis, qui se considère que l'objectif, c'est pas simplement de les libérer, mais c'est justement de leur donner un statut juridique. C'est pas des biologistes hein, qui écrivent ce livre-là, c'est deux universitaires qui sont un sociologue et l'autre qui est un juriste. Et donc, on voit bien que son objectif, c'est d'abord de la science politique. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, donc les animaux sauvages sont des c'est le droit international qui s'applique, c'est des nations à part entière. Les animaux domestiques, c'est effectivement la citoyenneté, et donc il y a toute une question aussi qui vont se poser sur la manière dont on va les représenter dans les instances délibératives comme le Parlement. Il faut que les animaux puissent avoir des représentants. Alors ils savent bien que c'est pas directement les chats, les chiens et les vaches qui vont siéger, mais il faut qu'on leur désigne des représentants dans ces institutions là. Il faut qu'ils aient des cours. Et effectivement, on nous dit, par exemple, ce qui est très intéressant, dans cet univers de Zoopolis, il y a quand même un animal qui est discriminé, c'est le chat, puisqu'ils considèrent que le chat, effectivement, on va avoir beaucoup de mal à l'éduquer, qui risque d'avoir des comportements qui ne seront pas tout à fait bienveillants.
Il est un peu de l'extrême droite, ouais, le chat. Il est du genre à bouffer les oiseaux.
À s'attaquer aux surmulots. Et donc, il faut l'éduquer, et c'est aux responsables de le faire. Mais on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a de plus en plus de villes qui commencent à s'intéresser à ça, avec des villes notamment dans le nord de l'Europe, où en fait la question se pose de savoir si on a le droit de laisser son chat dehors, tout seul.
Alors que dans ces mêmes pays du nord, on fait faire la sieste au bébé depuis toujours dehors pour les habituer aux températures froides.
Mais là, en fait, la question, c'est est-ce qu'on les laisse dehors seuls parce qu'effectivement, ils peuvent commettre justement des crimes.
Alors, cela dit, moi qui vis à la campagne de temps en temps, chaque fois qu'il y a un chat dans la région, il n'y a plus un seul oiseau. Hein, donc, c'est une nuisance absolue.
Non, effectivement, on sait que le chat est souvent effectivement l'un des espèces qui a le plus gros impact sur la biodiversité, ça c'est sûr. Mais donc ça, c'est les premiers, c'est la citoyenneté. Et effectivement, on a les animaux liminaires. Alors les animaux liminaires, c'est le rat,
les pigeons.
Les pigeons, tous ces animaux qui vivent à notre contact et qui ont donc ce statut de migrant, avec d'ailleurs, ils le disent, des droits qui s'accroît au fur et à mesure qui sont installés depuis de plus en plus de temps. Et ça va aller très loin puisque...
Elles acquièrent avec le temps un droit de séjour.
Voilà.
C'est un peu la stratégie du coucou, en fin
c'est
de
ça.
Compte.
Et c'est surtout que là, on leur invente des droits qui sont surréalistes.
Oui.
Paris Animal Zoopolis, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, s'inquiète de la nourriture des pigeons. Les pigeons, en fait, à Paris, sont obligés de manger nos restes. Et ils s'en nourrissent bien, ce qui explique que les populations augmentent. Sauf que Paris Animal Zoopolis se dit quand même, les Parisiens mangent beaucoup de la nourriture ultra transformée, industrielle, et que c'est pas très bon pour les pigeons, et qu'il faudrait donc avoir une nourriture plus diététique, et donc mettre en place un droit à une nourriture saine pour les pigeons, pour qu'ils ne soient pas obligés de manger
Le raisonnement est systématiquement inversé, en fin de compte. C'est-à-dire que nous, l'homme avec un grand H, on devrait déjà avoir une alimentation plus équilibrée, plus saine. Je parle surtout pour les grandes villes. C'est vrai qu'il y a eu ce côté très transformé. Mm-hmm. Mais là, eux, ils prennent le problème. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas au potentiel taux d'obésité de plus en plus tôt chez les enfants.
C'est de
nourrir. Alors que le pigeon, il continue de manger tout ce qu'il y a de plus sale.
Ça m'étonnerait qu'effectivement...
Il ne va pas aller se faire une ratatouille, que sais-je.
S'il y a un diététicien pigeon, ça m'étonnerait qu'il suive ses conseils à la lettre.
Mais
effectivement, ça veut dire juste qu'on a des associations qui font ce lobby-là. Par exemple, pour les municipales, ils viennent nous annoncer que le parti animaliste était présent dans 70 villes. Effectivement, c'est la stratégie du coucou. Ils sont présents sur des listes de gauche très majoritairement, mais aussi sur quelques listes de droite et quelquefois en indépendant. Donc, on a vraiment cette volonté d'imposer cette vision. Et c'est un peu le risque qu'on a, c'est petit à petit d'oublier la réalité, de vivre dans un monde totalement virtuel où finalement, parce que justement, on ne connaît plus les dangers de cette nature qui devient invasive et qui s'autodétruit, qu'on est simplement en train de regarder ces discours sur l'animalisme, sur ces nouveaux écologistes qui sont dans une négation totalement de ce qu'est la réalité de la nature et qui l'idéalisent. La thèse j'en parle dedans, l'idée de Gaïa, la thèse Gaïa, qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, c'était une idée qui est née dans les années 70 dans des mouvements un petit peu hippies et qui n'avait rien de scientifique et à l'époque contestée par tous les scientifiques. Et 50 ans plus tard, ça devient une base scientifique, alors que même quand elle a été écrite, même les deux, notamment l'Overlock qui était derrière cela, savaient que c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre de la spiritualité et des nouvelles spiritualités de l'époque et qui n'était pas du tout avec une vocation scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, parce qu'on a envie de croire à cet imaginaire-là, parce qu'une partie des gens sont en train de nier la réalité de la nature pour nous imposer un imaginaire d'une nature qui serait idéalisée et qui serait idéale, eh ben on a ce risque de voir encore continuer ces espèces invasives, avec les maladies qu'elles amènent, avec les problèmes économiques majeurs, et surtout avec un risque pour notre biodiversité qui sera extrêmement important.
Eh ben, Olivier Vial, merci. Je redis le titre de votre ouvrage. La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu? Aux éditions du Rocher, ça vient de paraître. Vous l'avez coécrit avec le docteur Romain Lasseur, vétérinaire. C'est un ouvrage passionnant. On apprend mille choses et surtout, on apprend à découvrir, une fois plus, ces idéologies extrémistes qui, fondamentalement, n'ont qu'une haine, c'est celle de l'homme. Merci beaucoup
merci
de nous avoir aidé à mieux comprendre ce problème.
Merci.
Nous allons continuer avec Pierre-Marie Sève, voilà, juste après Olivier Vial, qui nous a parlé de la guerre contre les espèces invasives, donc qui ont un coût économique absolument exorbitant, alors que Radio Courtoisie, ça ne revient quasiment à rien. Et donc, d'ailleurs, je vous encourage à donner à soutenir.rc.fr. Voilà, si vous avez envie de partir en guerre contre les frelons asiatiques, c'est une masse considérable. Si vous avez envie de mettre en place des programmes diététiciens et nutritionnels pour les pigeons, comme le réclame Paris PAZ, donc cette association parisienne totalement inspirée de Zoopolis, ben, évidemment, ça va vous coûter bonbon. Alors que si vous donnez à Radio Courtoisie, non seulement c'est déductible de vos impôts, mais ça vous permettra de faire en sorte d'écouter des gens aussi intelligents qu'Olivier Vial, Georges Kuzmanovic ou Pierre-Marie Sève. Bonjour Pierre-Marie Sève.
Bonjour,
voilà,
Richard
de Sèze. Vous êtes délégué général, si je ne m'abuse, de l'Institut pour la Justice.
Oui.
Voilà, donc je voulais être certain d'avoir bien retenu votre titre. Vous avez publié...
Directeur, c'est plus ça.
Directeur, voilà. Chef, on reçoit les chefs ici. Vous avez publié une note tout à fait intéressante sur le travail obligatoire en prison. C'est un peu aujourd'hui, non pas décousu, mais on s'était dit que tout allait mal et que tout irait de plus en plus mal. Eh bien, les prisons aussi. Quelque chose est vraiment intéressant, c'est qu'on décide évidemment de faire travailler les prisonniers pour plusieurs raisons. D'une part, pour qu'ils subviennent en quelque sorte à leurs besoins et surtout pour que la société ne soit pas seule à supporter ce coup. Après tout, ils sont en prison, on ne va pas les affamer, mais il ne faudrait pas non plus que ça coûte horriblement cher. Et puis, malgré tout, le fait de travailler, d'avoir un travail régulier, de devoir écouter un contremaître, respecter les horaires, prendre une pause et ne pas la dépasser, autrement dit, vivre en société, ce travail a une vertu morale, donc de rééducation, de réinsertion. Voilà, la prison, c'est bien sûr être privé de liberté, c'est symboliquement très important. La société témoigne à la personne qu'elle est punie et qu'elle est punie parce qu'elle n'a pas respecté les règles, mais elle lui dit aussi voilà, qu'elle peut réintégrer le corps social pourvu qu'elle se soit réformée, et quoi de mieux que le travail plutôt que l'oisiveté. Mmh. Et justement, votre étude le prouve. Il y a un effondrement, en fait, du travail en prison. On est passé, en 1974, d'environ les deux tiers des prisonniers qui travaillent, en 2024, à 31%. Voilà, on a diminué de moitié, on est passé des deux tiers à un tiers. Comment expliquer la diminution radicale, en 50 ans, du travail en prison, alors que tout le monde a l'air de dire que c'est une très bonne idée?
Effectivement, tout le monde dit que c'est une très bonne idée. Il y a quelques années, en 2023, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui nous a tous laissé un souvenir impérissable en tant que garde des Sceaux, se rendait à la prison de Bois d'Arcy, donc la prison de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, qui est un grand bâtiment, un ensemble de bâtiments en béton, pas très agréable. Et il était là avec une soixantaine de chefs d'entreprise, notamment des patrons du CAC 40, etc. etc. Et il nous dit, il faut 50%, d'ici 2027, 50% des détenus qui travaillent en prison. Aujourd'hui, on en est très loin. Vous avez cité le chiffre de 1974. Et en fait, si on remonte même encore plus loin, dans les années 50 et 60, on est pratiquement à 8 ou 9 détenus sur 10 qui travaillent en prison. Et on a eu effectivement un effondrement progressif qui a commencé à partir des années 70. Comme pour l'ensemble de la justice pénale, il y a eu une révolution à partir des années 70. Et effectivement, on est passé, mais même si on prend l'an 2000, nous c'était un chiffre qui nous parlait pas mal, on était à 45% de détenus qui travaillaient encore en l'an 2000. L'an 2000, ça paraît pas si loin. Aujourd'hui, on est à 30%. Avec Dupond-Moretti, nous a donné son objectif de 50%. On restera autour de 30%.
Alors, pour il tout apparaît un tas de raisons, Daniel, que M. Dupond-Moretti, effectivement, promet, mais ne tient pas.
Oui, paraît-il. Et pour tout un tas de raisons. La première raison est quand même essentiellement comptable. C'est que le nombre de détenus a beaucoup augmenté. Et donc, naturellement, le nombre d'ateliers n'ayant pas suivi, parce que les ateliers, il faut les construire, le régime général, qui sont les deux modalités principales de travail, c'est-à-dire le travail en atelier pour des entreprises ou le régime général dans les prisons, ne peut pas contenir l'afflux important de détenus qui sont arrivés depuis l'an 2000, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 45 000 détenus en l'an 2000, on est plutôt autour de 75 000 aujourd'hui, entre 75 000 et 80 000. Donc, naturellement, puisque le nombre de postes de travail n'augmente pas, mais le nombre de détenus augmente, bah forcément la proportion de ceux qui travaillent diminue fortement. Donc, je dirais que c'est la raison principale, mais après, il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce que les détenus ne travaillent pas plus alors qu'une bonne majorité d'entre eux voudraient travailler? Il n'y a que 30% des détenus qui travaillent, mais on peut facilement estimer que les deux tiers des détenus voudraient travailler. Il y a une bonne partie qui ne peuvent pas pour des raisons de handicap, notamment de troubles psychologiques, etc. Il y a des gens qui ne sont pas aptes au travail dans les prisons, mais il y a facilement les deux tiers des détenus, des prisonniers, qui voudraient travailler. Et alors, il y a deux modalités de travail. Le régime général, comme je vous disais, ça c'est faire la lessive, c'est faire apporter les plateaux repas, nettoyer les salles de sport, etc., etc., les bibliothèques. C'est le régime, c'est le service général. Et on a à côté le travail en atelier, qui sont là un petit peu le cœur de ce qu'on voudrait qui constitue le travail en prison, c'est-à-dire des entreprises qui font travailler les détenus pour le bien des marchés, de la société, etc., etc. Et pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Eh bien, pour tout un tas de raisons. Il se trouve que les détenus ont un contrat de travail qui s'appelle le contrat d'emploi pénitentiaire, qui a été créé il y a quelques années, et qui est un droit exorbitant du droit commun pour pousser les entreprises. Donc, les détenus sont moins bien payés. Hein, ils n'ont pas de SMIC, il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas tout un tas il n'y a pas de syndicats, naturellement, il n'y a pas tout un tas de garanties qui ont cours dans le droit du travail ordinaire. Et c'est bien normal que, à mon sens, le droit du travail en ordinaire ne s'applique pas en prison, puisqu'on est dans une certaine coercition, hein, on n'est quand même pas là de son plein gré. Donc, c'est parce que les entreprises ne viennent pas, c'est tout bêtement ça.
Alors, on va revenir sur ces entreprises qui ne viennent pas, on reviendra aussi sur les droits syndiqués du prisonnier travailleur. Oui. Il y a quelque chose qui m'a fasciné, c'est effectivement la manière dont les prisons ont décidé d'automatiser et d'externaliser des tâches. Je vous cite, c'est page 7 de cette étude tout à fait intéressante. Travail obligatoire en prison, l'échec d'une promesse et l'urgence d'une révolution. Certaines tâches qui étaient auparavant réalisées par les détenus sont désormais automatisées, notamment grâce à l'évolution technologique, ou confiées à des prestataires privés ou associatifs, ce qui limite la quantité d'emplois disponibles dans les établissements. Par exemple, le nettoyage des cellules, des couloirs, des espaces communs, le lavage du linge est de plus souvent externalisé, confié à des entreprises privées dans certains établissements neufs construits en partenariat public-privé. Dans les prisons de Réau ou de Bourg-en-Bresse, des prestataires privés gèrent l'hôtellerie, la restauration, la blanchisserie et l'entretien général. Et là, on se dit, mais nom d'un chien, effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tous les prisonniers à laver les cellules, laver les couloirs, ranger la vaisselle, laver la vaisselle, s'occuper du linge? Il y en a un qui est commis au torchon, l'autre au thé d'oreiller, le troisième à aérer les matelas. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit un travail horriblement compliqué à organiser.
Non, mais on est en présence d'une population très particulière. Les détenus, les délinquants et les criminels, donc les détenus, ne sont pas une population ordinaire. Les rendements des détenus sont très faibles. Les problèmes d'insubordination, les problèmes disciplinaires sont très fréquents. Donc, c'est pas si facile. Alors, j'ai pas les exemples. Évidemment, c'était dans notre étude. On n'a pas creusé particulièrement sur ces prisons-là. Pourquoi est-ce qu'on avait eu recours à des services extérieurs ? Mais quand même, un des points qui revient régulièrement, c'est que les détenus, et c'est pour ça qu'on retouche à nouveau au sujet des entreprises. Les entreprises ne viennent pas en prison aussi parce que les rendements sont très faibles. Et donc, même le coût du travail qui est faible, effectivement, n'est même pas toujours rentabilisé parce que les détenus ont un mauvais rendement, ont des difficultés d'adaptation. Dans les entreprises, on a toujours un temps d'adaptation à son poste. Parfois, ça peut être très long pour des détenus. On travaille pas avec une population ordinaire. Et d'ailleurs, dans l'histoire, dans l'histoire, on a toujours eu le travail obligatoire en prison à travers le monde. Aux États-Unis, c'est encore le cas. Sans aller jusqu'au goulag, même en France, on avait un travail obligatoire jusqu'en 1987. En Allemagne, le travail est obligatoire. Au Japon, le travail est obligatoire, etc. etc. Donc, dans ces pays-là, on était obligé d'avoir recours à des méthodes très sévères, très coercitives, pour les faire travailler convenablement. Aujourd'hui, on n'a plus recours à des méthodes très coercitives. Alors déjà, on devrait ne serait-ce que jouer davantage sur leur possibilité de sortie de prison, mais aujourd'hui, les juges d'application des peines les font sortir un petit peu n'importe comment, notamment pour gérer la suroccupation des prisons, et non pas en fonction des efforts de réinsertion réels des détenus. Mais donc, on ne peut pas fouetter les détenus comme ça se faisait au Boigne à une certaine époque, et c'est d'ailleurs bien heureux. Mais donc, on ne peut pas les faire travailler comme des travailleurs ordinaires.
Alors, j'ai deux questions, mais qui peuvent se recouper en une. Même si j'entends tout ce que vous venez d'évoquer sur les faire travailler de manière ordinaire, quelles sont les tâches que les entreprises peuvent confier aux prisons, d'une part ? Et dans un deuxième temps, comment se fait-il qu'a priori, il n'y ait justement pas de travail, alors qu'on a un gouvernement qui nous parle très souvent de « on a un besoin de main-d'œuvre économique permanente ». Des gens ne veulent pas faire certains métiers en France. Alors, il y a évidemment des métiers où on ne peut pas sortir de prison comme ça. Ouais. Quoique je sais que ça existe, je crois que c'est pour la prison de Reims. Les détenus, alors c'était le cas il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais les détenus sortent le soir sous escorte et travaillaient sur des chantiers de nuit, de grosses œuvres et choses comme ça, et revenaient au petit matin en prison.
Tout est possible que ça existe. Il y a plein de modalités différentes. C'est d'ailleurs presque un problème, parce que tout est devenu tellement complexe. On a des centres de semi-liberté dans lesquels les détenus vont travailler la journée et reviennent le soir, donc c'est un petit peu l'inverse. Mais donc, effectivement, c'est tout à fait possible que ça existe. Alors, sur le travail concret qu'on peut retrouver en prison, je peux vous donner des exemples. À Marseille, on a une prison pour femmes. D'ailleurs, les femmes ont souvent bien plus de difficultés à travailler en prison puisque la prison est tout de même faite pour les hommes. Et d'ailleurs, 95-98% des détenus sont des hommes, donc c'est assez logique aussi. mais donc, il y a une prison pour femmes à Marseille, par exemple, qui fabrique des bijoux fantasy pour une grande marque de luxe.
Ça, c'est très fréquent. Ils emballent aussi les... On va pas donner de nom de marque, mais de grandes marques, les emballages de parfums.
Et les marques elles-mêmes ne veulent pas qu'on donne les noms, parce que ça donnerait une mauvaise image,
grandes marques,
etc., etc. Et bien souvent, c'est fabriqué 30€, c'est revendu 300. Donc voilà, c'est un exemple de choses, c'est du travail en atelier, ça peut être tout un tas de choses, de la manipulation de petites pièces de plastique, de trucs comme ça. Typiquement, les bijoux fantasy, c'est de la manipulation, il n'y a pas besoin d'un très haut niveau d'expertise, il y a de la couture, enfin bref, il y a plein de possibilités, mais c'est du travail non qualifié, dans des ateliers, on appelle ça des ateliers. Et ce sont les entreprises qui, elles-mêmes, viennent. Et d'ailleurs, l'État fait beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas d'efforts pour faire venir les entreprises en prison, mais les entreprises ne veulent pas venir. Pour des problèmes d'image, pour des problèmes, je vous disais, de rendement et de rentabilité qui ne sont pas toujours au rendez-vous. J'avais lu une interview d'un chef d'entreprise qui disait « Écoutez, on a essayé, mais en fait, il y avait des problèmes tout le temps, d'approvisionnement, les rendements n'étaient pas au niveau, donc on a arrêté. »
Alors qu'en termes d'image, ça pourrait être très intéressant pour une entreprise de se dire que...
Le ministère de la justice a sorti un label même.
Oui, je travaille justement à la réinsertion professionnelle, à la vie en société. Oui. Je permets à des détenus de développer des compétences.
Oui, c'est clair que ça pourrait être le cas. Mais le ministère essaye de le faire. On ne peut pas dire qu'il n'essaye pas. Mais bon, malheureusement, là où ça pêche, je vous ai cité plusieurs cas, plusieurs raisons. Une autre raison pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces travailleurs en prison, c'est qu'il n'y a pas d'atelier construit, il n'y a pas de bâtiment pour les faire travailler.
C'est ça, en fait, les nouvelles prisons sont dépourvues en fait, de la capacité de travailler.
Voilà, on ne prévoit pas les ateliers qui sont les lieux où les entreprises pourraient faire travailler les détenus. Donc forcément, bah, on ne peut pas faire venir d'entreprise quand on n'a pas d'endroit pour les loger.
Alors, on va revenir aux solutions que vous préconisez, parce qu'une fois de plus, il y a un consensus à peu près général, de droite comme de gauche, populaire comme cultivé, autour de la valeur travail, pour parler comme Nicolas Sarkozy, qui s'y connaît. Il a travaillé lui-même en prison à la rédaction de ses mémoires. Il n'a pas été rémunéré pour ça, d'ailleurs. Et on va passer d'abord un peu de temps, justement, sur ce contrat de travail. Vous disiez que c'était un droit exorbitant du droit ordinaire. C'est logique. Pas de congés payés, pas de syndicats. Mais justement, la tendance actuelle, et vous citez notamment la loi du 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire instaurant le contrat d'emploi pénitentiaire, voilà le CEP, notamment la création récente du CEP, vise à aligner les conditions de travail des personnes détenues sur celles du droit commun, SMIC, contrat de travail, congé payé, protection contre le licenciement, droit syndical. Donc il y a vraiment des gens qui sont en train d'imaginer que les ouvriers puissent se syndiquer au sein de la prison.
C'est le grand mouvement au sein des prisons et du travail en prison, le grand mouvement intellectuel, c'est aligner les régimes. Parce que les associations qui luttent, par exemple l'Observatoire international des prisons, etc., etc., les associations qui luttent pour la défense des droits des détenus, sont des associations anti-prison, par définition, dans leurs fondements les plus profonds. Et donc, forcément, si elles n'arrivent pas à abolir la prison, elles vont tout faire pour faire en sorte que la vie en prison soit similaire à la vie ordinaire en dehors des prisons. Donc c'est le grand mouvement. C'est un mouvement qui a eu lieu d'ailleurs dans tout l'Occident, dans les pays scandinaves. Ce mouvement est allé très loin et effectivement, il y a des contrats de travail pratiquement ordinaires dans les pays scandinaves qu'on n'a pas plus dans le sud de l'Europe, qu'on n'a pas aux États-Unis, qu'on n'a pas au Royaume-Uni, qu'on n'a pas en Allemagne, mais qu'on a chez les Danois, les Suédois, les Norvégiens, etc., etc., qui ont un modèle de justice assez différent. Enfin, en tout cas, beaucoup plus... est-ce que c'est un gros mot sur Radio Courtoisie ? Gauchisé ?
Je présente mes excuses au nom de Radio Courtoisie pour le gros mot que vient de prononcer.
Typiquement, en Suède, je vais vous donner un exemple. En Suède, il y a quelques années, il y a un homme d'origine érythréenne qui était sur un scooter, qui sortait de prison, qui est allé voir un policier qui était au milieu d'une cité, qui était en train de discuter avec la population, faire de la police de proximité. Il a sorti un pistolet, lui a tiré en plein dans la tête. Il a été condamné à même pas 10 ans de prison, ce jeune homme, pour avoir abattu, exécuté un policier gratuitement, sans aucune raison. Donc les systèmes judiciaires dans les pays scandinaves, c'est un autre monde. On se plaint d'une autre et a raison, mais c'est un autre monde.
Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait fascinant. On en parlait tout à l'heure avec la guerre contre les espèces invasives, c'est-à-dire les écologistes les plus fervents réussissent à faire en sorte que ce soit les espèces les plus féroces qui dominent et qui éliminent la biodiversité et non pas le capitalisme. Et donc là, ces associations qui militent pour que les ouvriers en prison aient droit à des congés payés, aient droit à une représentation syndicale, ouais, aient droit à une protection contre le licenciement, autrement dit pour que les ouvriers dans les prisons soient des ouvriers comme partout ailleurs, et réussissent à faire une seule chose, c'est que plus personne n'a envie de donner un quelconque droit au travail à ces ouvriers. Et cite celui que vous citez, Alexis Carré, les associations qui militent pour l'application du droit du travail en prison ne contribuent donc pas à améliorer les conditions dans lesquelles ce travail s'effectue, elles participent à sa disparition. Il y a toujours cette espèce d'effet pervers du gauchiste moyen qui réussit à taper pile à côté du ballon.
Oui, qui a sa première intuition qui vient du cœur et non de la tête, alors qu'il faudrait que ce soit un petit peu les deux, et qui finalement a tout un tas d'effets pervers. Et il y en a plein dans le monde de la justice, des mesures qui visaient quelque chose et qui arrivent à autre chose. Je vais vous donner un autre exemple, ce serait drôle ça aussi. Les aménagements de peine ab initio. On sort des prisons, on va dans la justice pénale. Les aménagements de peine ab initio, c'est-à-dire ce sont des aménagements de peine au tribunal. Vous êtes condamné à une peine de prison, de 10 mois de prison ferme, eh bien la loi dit que jusqu'à 12 mois, il y a un très fort encouragement, voire une obligation pour les magistrats de transformer cette peine de prison ferme, qui normalement, dans l'esprit du français moyen, de vous et moi, une peine de prison ferme, la personne va se retrouver en prison. Eh bien non, il y a ce mécanisme d'aménagement de peine ab initio qui fait que jusqu'à 12 mois, et donc on a un palier à 12 mois, le juge a quasiment une obligation de transformer cette peine en bracelet électronique, en, de l'aménager. Eh bien, il y a eu, donc ça c'était pour but de vider les prisons, parce que les prisons étaient trop remplies, et c'est la droite d'ailleurs, enfin la droite de Rachida Dati, qui a poussé à cette mesure-là, qui l'a mise en place, mais pour répondre aux arguments de la gauche, aux associations de la gauche, qui voulaient moins de prisons en gros. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'effet pervers, c'est que les magistrats qui avaient en face d'eux la réalité, les magistrats ne sont pas tous d'affreux laxistes, ils avaient en face d'eux de la réalité. Il y avait beaucoup de détenus et de personnes qui avaient en face d'eux qui devaient aller en prison. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement condamné des peines plus longues, au-dessus du palier de 12 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les peines en France ont été considérablement étendues. Heureusement derrière, enfin heureusement ou malheureusement, je vous rassure, elles ne sont pas effectuées. C'est devenu le gros problème, mais ne serait-ce que dans le prononcé des peines, les peines sont beaucoup plus longues en France que dans la plupart de nos pays. Les peines prononcées, pas exécutées, mais les peines prononcées sont beaucoup plus longues que dans les autres pays européens. Donc effectivement, le monde judiciaire, qui est le terrain de jeu favori de la gauche intellectuelle française, c'est là où elles ont eu pratiquement le plus de succès depuis 68, c'est rempli d'exemples comme ça où on vise quelque chose, on vise à être plus gentil, et puis au final, on aboutit à une succession d'une complexité folle d'effets pervers en cascade. Et ben, c'est exactement ce qui pourrait se passer avec le travail en prison. Si on alignait effectivement les conditions du travail en prison sur les conditions de travail en extérieur, et ben, les entreprises qui déjà viennent peu, et ben, ne viendront plus du tout. Parce qu'elles n'ont pas, elles viennent précisément parce que, c'est l'offre et la demande la plus basique, que quand vous n'avez pas assez de demandes de votre produit, bah, vous essayez de faire en sorte qu'il soit moins cher, qu'il soit plus avantageux, plus attractif. Bah, là, c'est précisément l'inverse que ces associations veulent faire, au nom des grands principes sur lesquels personne n'a encore vraiment réussi à mettre le doigt, mais qu'elles prétendent défendre.
Les valeurs de la République. Voilà. Alors, ce label PEPS, dont vous parliez tout à l'heure, produit en prison, donc a été créé en 2019 par Latigip, ou Latigip, je ne sais pas comment on dit. Et voilà, ça marche pas très bien, parce que, pour toutes les raisons que vous avez dites, et malgré tout, voilà, ce travail obligatoire, vous pensez que c'est une bonne idée, une fois plus, pour les simples raisons qu'on disait tout à l'heure. C'est un levier fondamental de responsabilisation, de réinsertion et de réparation vis-à-vis de la société. Qu'est-ce que l'Institut pour la justice a envie de proposer aux législateurs comme réforme en fait, de ce travail obligatoire en prison?
Alors, le travail, progressivement, pour revenir encore aux associations, mais on va revenir au même sujet, mais progressivement, le travail en prison était un devoir pendant de tout temps. On avait le bagne à une époque, hein. Le bagne c'était une sorte de prison plus, qui était d'abord dans les villes portuaires, à La Rochelle, Rochefort, voilà, travail forcé, puis en Outre-mer, mais avec un... Donc le travail en prison était fondamental au 19e siècle. Et au fur et à mesure, le travail qui était un devoir est devenu un droit. Et ça se symbolise par une chose, c'est qu'en 1987, on a supprimé l'obligation de travailler en prison. Eh bien, nous voulons tout simplement revenir dessus. Parce que symboliquement, nous estimons que, même si cette obligation, c'est une obligation pour les détenus, mais il y en a déjà très peu, je vous l'ai dit, la plupart des gens, des détenus, sont volontaires pour travailler. Mais il faut remettre, à notre avis, cette obligation-là, parce que d'un point de vue symbolique, il est insupportable pour le grand public que les gens se tournent les pouces dans les prisons. Et donc pour nous c'est une question de principe. Voilà, il faut remettre le travail obligatoire en prison. D'ailleurs on peut très bien s'inspirer d'exemples en Allemagne. En Allemagne c'est très divisé en fonction des Länders, mais il y a un Länder qui prévoit un certain nombre, une obligation graduée d'un certain nombre d'heures et de mois, pas besoin de faire 35 heures toutes les semaines en prison de travailler, mais un certain nombre obligatoire, ne serait-ce que pour rembourser sa dette à la société, parce que nous estimons, à la différence des associations que nous avons citées, que ce n'est pas la société qui a une dette envers les détenus, mais c'est plutôt les détenus qui ont une dette envers la société. Ce n'est pas... Et les pauvres détenus ne peuvent pas se cacher en permanence derrière « c'est la société qui m'a rendu comme ça ». Parce que c'est ça le catéchisme de ces associations-là, c'est que vous, c'est en tant que personne ordinaire, c'est de votre faute si ce détenu a violé cette femme. C'est de votre faute puisque c'est la société qui l'a rendu comme ça. Ouais, ils oublient évidemment tous les principes de responsabilité individuelle. Mais donc, voilà. Donc, le premier principe que nous voulons mettre en place, c'est rendre ce travail obligatoire. Et puis ensuite, nous voulons obliger donc les détenus à travailler, mais aussi l'État à faire travailler les détenus. C'est ça aussi que permettrait cette obligation de travail. Et là, pour obliger l'État à faire travailler les détenus, ça le pousserait à construire des ateliers dans les établissements où il n'y en a pas. Ça obligerait l'État à tout un tas de mesures qui devraient être assez évidentes, mais qu'il ne fait pas parce qu'il n'en a pas l'obligation, et puis parce que il a que l'obligation du ministre qui est en place, en poste là, et qui partira de toute façon dans quelques mois.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans dans les propositions que vous faites, il y en a 8. C'est d'une part, vous vous appuyez sur les exemples internationaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ailleurs, et donc vous avez repéré les bonnes idées, et même sur des expérimentations qui ont été menées en France et qui ont été un succès, et qui, comme généralement toutes les expérimentations, sont suivies avec intérêt, couronnées de succès, et ensuite placées sur une étagère où on continue à les contempler. Là, par exemple... prévoir la construction systématique d'ateliers dans les nouveaux établissements pénitentiaires. Et donc, vous dites, voilà, on intègre des espaces industriels, on fait en sorte qu'il y ait des ESAT, donc les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, donc pour les personnes qui ont besoin d'un travail adapté parce que
qui sont nombreuses en prison.
Que physiquement ou cognitivement, elles sont handicapées. Ce modèle a déjà fait ses preuves à la maison centrale d'Enzisheim, où un tiers de la population carcérale bénéficie d'une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et donc, voilà, il y a un ESAT, ça marche bien. Donc, autrement dit, la France a déjà le modèle qu'elle peut développer. La France sait déjà que ça peut marcher.
Mais ça, c'est la réalité de la France. Enfin, on a déjà tout un tas de modèles qu'on ne développe pas sans faire trop d'écart.
Vous parlez
de
la monarchie.
Je n'y pensais pas, mais c'est un exemple tout à fait vrai. On parlait de soins palliatifs, par exemple. On a les moyens en France de développer les soins palliatifs, mais on préfère faire voter l'euthanasie. On va s'éloigner du sujet, donc c'est pas le but pour notre invité. Mais
je veux pas trop jeter la pierre. La prison de Zichheim est une prison spécialisée là-dedans depuis quand même assez longtemps. Typiquement, vous vous souvenez peut-être de l'affaire Pierrot le Fou, Pierre Baudin, un homme, un tueur en série qui a tué beaucoup de personnes et qui se faisait passer pour un handicapé. Bah, il passait son temps à Zichheim, je crois qu'il y est toujours d'ailleurs. Et puis c'est une maison centrale. Le problème principal du monde de travail en prison, c'est en maison d'arrêt. En fait, en France, on manque beaucoup de souplesse à tout point de vue dans les prisons. C'est-à-dire, les modalités d'écrou sont très lourdes. Pour faire entrer un détenu en prison, il faut lui faire des empreintes. Enfin, bref, c'est extrêmement lourd. Et donc, ça manque énormément de souplesse. Et donc, le problème, c'est principalement dans les maisons d'arrêt. À Zichheim, on est dans une maison centrale hautement sécurisée. Donc, on a des détenus extrêmement dangereux, parmi les plus dangereux de France. Donc, je ne veux pas trop jeter la pierre. Effectivement, mais effectivement, le modèle existe. On sait qu'il fonctionne. Bon, maintenant, il faut le mettre en place. Mais de toute façon, le problème principal, et il reste quelques secondes, j'en profite, le problème principal de la justice pénale aujourd'hui et un ministre de la justice digne de ce nom ne doit se concentrer que sur un seul problème, construire des places de prison et bien les construire, et pour pas cher. Et on en a complètement les capacités. Bon, malheureusement, il ne le fait pas, ils ne le font pas, le président de la République ne le fait pas alors qu'il le promet.
Bon. Pierre-Marie-Sève, merci d'être venu présenter cette note, travail obligatoire en prison. Vous pouvez tous la télécharger sur institutpourlajustice.org. Et j'en profite pour vous dire au revoir, vous dire que demain, c'est Arthur de Vatrigan qui revient, et remercier Jean-Étienne Poza qui m'a grandement aidé à préparer cette émission, notamment pour les questions que j'ai posées à Georges Kuzmanovitch. Merci beaucoup et à très vite.
Ça suffit maintenant.